Pour la chronique environnement aujourd'hui, je reçois Pierre-Étienne Drolet, qui est biologiste et coordonnateur de projet au COBALI. C'est un organisme qui veille à la protection des lacs et des cours d'eau du bassin versant de la rivière du Lièvre. Salut Pierre-Étienne, comment ça va?
Ça va bien toi?
Ça va super bien. Bon Halloween, joyeux Halloween.
Ben oui, toi aussi.
Puisqu'on est justement le 31 octobre, nous parles justement d'un sujet en lien avec l'Halloween, si on veut.
Ben oui, on se garde. On va parler un petit peu de légendes et de monstres marins, mais aussi de créatures des profondeurs bien réelles dans nos lacs. Qui n'a pas déjà entendu parler du monstre du Loch Ness, hein? Tout le monde a déjà entendu parler de ça.
Ouais, puis même au Québec, il y en a également, hein, pour ce qui est des légendes, des créatures et d'événements fantastiques.
Oui, il y en a un, si vous êtes familier avec l'Estrie, là, il y a le lac Memphrey-Magog, là, qui a Memphrey, le célèbre monstre. Un peu à mi-chemin entre un serpent et un dinosaure aquatique qui est de la grosseur d'une baleine, pourquoi pas. Mais il y en a d'autres, hein. Il y en aurait un dans le réservoir Baskatung, entre autres. Une genre de créature, genre reptile, là, encore là, de plusieurs mètres, là, qui aurait une tête de cheval et une queue de truite.
Oh, ok.
Quand même.
Méchant monstre.
Puis dans le lac Blue Sea, ben là, il y aurait un monstre qui serait appelé Misiganebik. L'hiver passé, d'ailleurs, je me suis aperçu que en regardant un article là, dans le journal, dans l'info de la Lièvre, que en 1977, il y a des gens qui avaient trouvé des traces de reptiles géants au lac d'Écaries. Ça, c'est à Mont-Saint-Michel, en fait.
Et parlons des monstres, là, j'imagine que ça, ils vivent dans les grottes, parce que sinon, on les verrait dans nos sonars quand on va à la pêche.
Oui, on suppose.
C'est ça, évidemment, c'est une image, là.
Ils doivent avoir un genre de planque, là, qui peuvent se cacher, fait que, mais ça tombe bien, parce qu'il y en a dans la région. Par exemple, au réservoir du Poisson Blanc, il y a la grotte de l'Église, dans le sud du réservoir, là, qui, on peut l'explorer en plongée sous-marine, là. C'est une grotte sous l'eau. Puis il y a aussi le petit lac du Cerf, qui sa décharge est en dessous de la terre. C'est, dans le fond, le ruisseau, il passe dans un réseau de grottes en dessous de la terre pour rejoindre la Lièvre. Fait que, là-dedans, il peut y avoir plein de choses, là, tu sais. On sait pas, là, qu'est-ce qui se passe là-dedans.
Non, effectivement, parce que, bon, quand on va dans les profondeurs, on fait bien des farces avec les monstres et tout ça, mais c'est quand même... on sait pas quel genre de créature peut se retrouver là pour vrai, là.
Ben non, puis en fait, je vais vous parler là de, entre autres, d'un poisson qui est effectivement assez secret, qui habite justement dans les profondeurs, qui s'appelle le chabot de profondeur, justement.
Ok, je connais pas.
Ben c'est un poisson qui est super rare, donc c'est normal que t'en aies jamais entendu parler. C'est en fait une relique de la dernière époque glaciaire, à l'époque où les lacs étaient extrêmement froids là à la fonte des glaciers. Puis, tu vois, en 2019, sa présence a été confirmée dans le lac des Écorces.
OK.
Qui serait un des, au gros maximum, 5 lacs au Québec où ce poisson-là serait présent.
Donc, c'est assez rare, là.
C'est assez rare, merci, là. Ça se fréquente les eaux profondes et froides des lacs profonds. C'est un petit poisson qui a de l'air d'un petit monstre là, qui a des épines, comme la plupart des chabots, justement. Fait que c'est concept avec l'Halloween. Sais-tu comment on a réussi à savoir qu'il était là officiellement?
Non.
Parce qu'on l'avait déjà identifié, mais on n'était pas tout à fait sûr. On a fait ça avec de l'ADN environnemental, ça s'appelle. C'est-à-dire que les biologistes vont recueillir de l'eau, puis on regarde l'ADN qu'on retrouve, dans le fond, dans les échantillons.
Okay.
Puis là, on peut savoir quelles espèces qui ont de l'ADN dans le lac. Fait qu'on l'a confirmé avec cette technique-là en 2019. Le lac des Écorces, d'ailleurs, je rappelle qu'il y a un autre poisson extrêmement rare qui s'appelle le cisco de printemps, qui est la seule population connue de cisco de lac, mais qui se reproduit au printemps plutôt qu'à l'automne. Fait que lui aussi, il est considéré menacé au Québec. C'est des poissons qui sont extrêmement rares. Fait qu'il y a un phénomène spécial dans ce lac-là.
Puis là, étant donné qu'ils sont menacés, j'imagine qu'il faut faire plus attention à ces poissons-là.
Oui, ben des poissons menacés, c'est sûr que toutes les bonnes pratiques là, pour les lacs, ben il faudrait les mettre en pratique d'autant plus. Par exemple, en ayant des bandes riveraines avec des arbres qui vont garder justement de l'ombre et qui vont maintenir l'eau froide avec beaucoup d'oxygène. Ça va leur donner un coup de pouce.
Pierre-Étienne, tu nous as parlé beaucoup de poissons rares. Est-ce que il y a un autre poisson mystérieux qu'on aurait peut-être plus de chances de voir là, lors d'une partie de pêche, par exemple?
Oui, il y a un poisson que moi j'aime bien, qui est assez spécial, qui habite aussi dans le fond, qui est très mystérieux. Ça s'appelle la lotte. La lotte, c'est un poisson qui mord surtout l'hiver à l'hameçon. Donc, c'est plus sur la pêche sur glace. Parce que c'est sa saison de reproduction. Puis en plus, elle mord la nuit. Hein, c'est quand même un poisson mystérieux. En fait, c'est un peu comme un zombie, mi-anguille, mi-barbotte.
OK. Non, fait que c'est pas le poisson le plus beau, là.
C'est pas le poisson le plus beau. Mais quand même, tu sais, quand tu sors ça sur ta ligne, c'est « Oh, wow, qu'est-ce que c'est ça? » Mais donc, c'est surtout l'hiver que ça se pêche, puis c'est un poisson qui est quand même... c'est assez rare qu'on l'observe, là. Habituellement, c'est plus ceux qui pêchent la nuit à la pêche sur glace.
Je trouve ça fascinant parce que là, tu nous as parlé beaucoup de poissons qui sont profonds dans les plans d'eau. Là, tu vas peut-être trouver ma question niaiseuse, mais comment ils font pour s'orienter? Parce que plus t'es profond, plus c'est noir, j'imagine, plus c'est sombre.
Oui, ben c'est comme... moi, j'ai un petit gars de 3 ans, puis tu sais, la chanson de Passe-partout, là, au fond de la rivière, il n'y a pas de lumière, là.
C'est ça.
C'est ça.
Ben, moi aussi, j'ai un petit gars de 3 ans, c'est pour ça que je te pose cette question-là, exactement.
Comment ils font pour voir? On appelle ça... En fait, les poissons utilisent la ligne latérale.
OK.
C'est un organe qu'il y a sur le flanc du poisson, qui est dans le fond, une série de petits trous. Et puis ça leur permet de capter la différence de vitesse, de pression et de vibration de l'eau. Un genre de super pouvoir, en fait, ou un genre de radar qui permet aux poissons en temps réel là, de capter tout ce qui se passe dans leur environnement, finalement, puis en quelque sorte de voir. Là. Donc, c'est pas qu'ils voient super bien, mm-hmm. mais ce sens-là que nous, on n'a pas, ben, leur permet de faire ça dans l'obscurité.
C'est fascinant. Si on veut voir des images de ces poissons-là, il y en a sur le web en masse. Je pense que je vais même en mettre une avec notre chronique d'aujourd'hui. Je sais pas si nos auditeurs vont faire le saut. Mais vraiment intéressant, Pierre-Étienne. Puis c'était thématique avec l'Halloween en plus.
Ouais, on va en mettre sur Facebook, nous autres aussi, des photos, si vous voulez aller voir ça.
Pierre-Étienne Drolet, biologiste et coordonnateur de projet au Cobalie. On se retrouve en novembre.
En novembre, ben à la prochaine.
Salut!